Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinexplore. Ce mois-ci, j'ai eu le plaisir et l'honneur de discuter cinéma de patrimoine et diffusion avec l'une des personnes derrière la plateforme française, la Cinéthèque. Prendre contact avec Jean-Baptiste Viau n'a pas été chose aisée, mais nous y sommes parvenus et c'est en mai 2022, plus exactement le vendredi 13, que je me suis rendu au dernier étage d'un immeuble parisien pour discuter avec lui de comment la Cinéthèque est née, de comment elle a connu un succès croissant pendant la pandémie et de comment le futur de la plateforme est envisagé. Si vous ne connaissez pas la Cinéthèque, je pense que cet épisode sera une bonne introduction et je ne peux que vous encourager à aller jeter un œil à ce qui est fait du côté de leur site internet, www.lacinethèque.com. Vous y découvrirez une des rares, voire même la seule plateforme éditorialisée qui a pour ambition de vous faire découvrir tout le cinéma sans limite de genre ni d'époque, ce qui normalement devrait vous rappeler quelque chose. Je parle de Cinécure en fait. Bonne écoute à tous. Bonjour et en premier lieu, merci de me recevoir dans vos bureaux de la Cinéthèque. Pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est quoi la Cinéthèque ?
La Cinéthèque, c'est une plateforme de streaming ou de vidéo à la demande sur laquelle sont présentés les plus grands films de l'histoire du cinéma. Alors des tout débuts de l'histoire du cinéma avant 1900 jusqu'à l'année 2005 incluse. Voilà, on met en avant du cinéma de patrimoine, c'est-à-dire en gros les films qui ont plus de 15 ans par rapport à la date actuelle. Et il y a une particularité, c'est que tous les films qui sont présents sur la Cinéthèque ont été cités par des réalisateurs ou des réalisatrices du monde entier. Le principe et le concept, c'est que chaque mois, il y a un réalisateur ou une réalisatrice qui nous donne sa liste de 50 films préférés. Et l'addition de ces listes, en fait, constitue le catalogue de films cités et disponibles ensuite sur la Cinéthèque.
Ok. Il y a aujourd'hui donc plus de 100 réalisateurs ou réalisatrices qui vous ont remis leur liste de films, avec des noms très très connus du grand public. Je pense évidemment à Scorsese, mais pas seulement. Et puis il y a d'autres qui sont moins connus du grand public. Comment vous démarchez ces cinéastes, par exemple? Comment vous faites quand vous allez chercher quelqu'un d'un peu plus confidentiel? Et comment vous faites quand vous allez chercher un grand nom comme Scorsese, justement pour revenir à lui?
Alors, il faut savoir que la Cinéthèque a été créée par 3 réalisateurs. Ça a été fondé par Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et Laurent Canté, qui sont des réalisateurs reconnus et installés dans le milieu depuis très longtemps. Donc, pour les réalisateurs français, c'est un peu plus simple. La plupart du temps, ils les connaissent personnellement. Et il y a toujours une manière assez simple de récupérer un email si on ne les a pas déjà. Pour les réalisateurs étrangers, c'est un peu plus compliqué. Ce qui se passe souvent, c'est à la faveur de rencontres dans des festivals, par exemple. Bon, avec le Covid, ça a été un petit peu mis à mal, ça. Mais en tout cas, avant le Covid, voilà, c'était quand Laurent Canté, Pascal Ferrand et Cédric Lapiche se déplaçaient en festival ou invités dans des pays étrangers, etc. Il arrive régulièrement qu'il rencontre des réalisateurs étrangers. C'est le moment effectivement de le faire comme ça. Je crois que ça a été le cas avec Scorsese par exemple. Mais Scorsese, c'est une histoire assez rigolote parce qu'on a eu la liste très vite qu'il a renvoyée à Cédric Lapiche. Il avait été très enthousiaste quant au fait de former cette liste. D'ailleurs, il en a fait 2. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu.
Oui.
Une liste de films formateurs et une liste annexe, comme il l'a appelée. Et en fait, pour des raisons juridiques un peu obscures qu'on n'a jamais très bien compris, là, en fait, on a été empêché de publier cette liste pendant 2 ans. Et voilà. Donc, on a dû attendre 2 ans pour publier cette liste. Mais quand on a pu le faire, on en a été très heureux.
Oui, c'est clair. Oui.
Donc, de manière générale, en tout cas, voilà, ça se fait par effet de capillarité, par goût de nos réalisateurs fondateurs pour les réalisateurs auxquels ils proposent de donner leur liste de films préférés. Et donc voilà, pour les Français, c'est assez simple de les contacter. Pour les étrangers, bah, ça dépend. On peut passer par des attachés de presse, par des publicistes aux États-Unis, par des agents, ce genre de choses. Il arrive aussi que certains réalisateurs ou réalisatrices nous proposent d'eux-mêmes de constituer leur liste.
Ah d'accord, vous êtes parfois démarché directement, c'est marrant ça. Je vais peut-être un peu vite en besogne du coup, parce que la liste des réalisateurs ou des réalisatrices, elle est énorme, hein. On peut puiser là-dedans pendant des années, et la Cinéthèque continuerait de vivre, on peut s'imaginer vraiment pendant très très longtemps. Mais est-ce qu'un jour, vous imaginez ouvrir cette possibilité à d'autres professions? Je pense particulièrement à des professions plus, on va dire, sur le devant de la scène, on va dire par exemple directeur photo, ou même des acteurs très connus, qui ont eu une carrière assez longue et assez pérenne, on va dire, dans le cinéma français ou international. Est-ce que ça, c'est envisageable ou pour l'instant, c'est même pas du tout discuté?
Alors, il faut savoir que la Cinéthèque repose sur une association qui s'appelle la Cinémathèque des réalisateurs et qui a l'intérêt d'être clair sur le concept et le principe. Donc, si vous voulez, le principe fondateur qui a présidé à la création de la Cinéthèque, il restera toujours le même. C'est-à-dire, c'est des réalisateurs et des réalisatrices qui donnent leur liste de films préférés. Ceci étant, on est par exemple en train de créer une nouvelle rubrique qui, là, proposera à des gens qui ne sont pas réalisateurs cette fois-ci Ça peut être effectivement des acteurs, des actrices, des musiciens, des musiciennes, des sportifs, pourquoi pas, des écrivaines, enfin voilà, tout un tas de gens issus du monde culturel, mais pas réalisateurs, d'aller piocher dans le catalogue de la Cinéthèque et de nous dire quels sont leurs 5 ou leurs 10 ou leurs 15 films préférés là-dedans. Ouais. Voilà. Donc ce sera une manière de, tout en gardant le principe de base qui restera inchangé, et je pense pendant très longtemps, d'ouvrir à d'autres professions, effectivement, et à d'autres gens du monde culturel pour pouvoir comme ça faire leur sélection au sein de la Cinéthèque. C'est aussi une rubrique d'ailleurs qui donnera la possibilité à des utilisateurs et des utilisatrices du site de eux aussi aller choisir, d'aller constituer leur liste de films préférés.
D'accord, ouais.
Par ailleurs, sur la sélection du mois, qui est notre offre par abonnement, tous les mois, on propose à un invité ou une invitée de choisir son film préféré de la sélection du mois. Et là, on demande toujours à quelqu'un qui n'est pas réalisateur, justement. Et par exemple, ce mois-ci, on a eu 2 invités. On fait une liste autour de la lumière au cinéma et le métier de chef-op, justement. Et donc, on a demandé à 2 directrices de la photographie, et pas des moindres, puisque c'est Caroline Champetier et Claire Maton, de chacune nous parler d'un film de la sélection du mois. Cette ouverture à d'autres corps de métier, et aux techniciens notamment, ce qui nous semble vachement important, est déjà là, en fait.
Ouais,
voilà.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, la constitution des listes et donc du catalogue, c'est les réalisateurs et les réalisatrices. Pour le reste, voilà, les invitations sont ouvertes.
Une fois que vous recevez ces listes, les listes de films, bien entendu, il y a des titres qui se recoupent, j'imagine. Dans la liste de Scorsese, on va peut-être retrouver des films que Clapiche aurait pu recommander. Enfin voilà, on peut, j'imagine qu'il y a des titres qu'on retrouve. Mais des nouveaux titres qui apparaissent aussi, évidemment. Parfois même des titres inédits. Qui ont été complètement perdus ou pas restaurés ou difficiles à trouver. Comment vous y prenez pour les obtenir, ces films-là? Alors, ça, pas forcément les perdus, hein, je veux dire, tous les films en général, ça m'intéresse de savoir comment vous contactez le distributeur, j'imagine, pour vous y prendre.
Donc effectivement, il y a des croisements, en tout cas pour revenir sur ça déjà, et c'est ce qui nous passionne par ailleurs, puisque ça permet de créer des ponts éditoriaux, comme ça,
bien sûr.
Se dire « Ah tiens, ce film, il est aimé à la fois par Agnès Varda, par Scorsese, par Cédric Clapiche et par Lynn Ramsey ». Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est passionnant comme ça de voir les ponts et les affinités électives entre réalisateurs et réalisatrices autour de même film. Alors effectivement, ils nous soumettent des listes de 50 films. Aujourd'hui, vous le disiez, on est à plus de 100 réalisateurs et réalisatrices associés, donc effectivement, il y a quand même... ça devient un peu plus difficile d'avoir des films inédits au sens de films qui n'ont jamais été cités auparavant.
Ouais.
Ceci étant, ils arrivent encore très bien finalement. Et tous les mois, on a entre 15 et 20, bon, entre 10 et 20 films qui n'avaient jamais été cités précédemment. Et donc, c'est là qu'on se met en quête des droits pour ces films. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit ce sont des films qui sont au catalogue de distributeurs ou d'ayants droit avec lesquels on travaille déjà.
Mm-hmm.
Alors là, c'est assez simple. C'est le cas de figure le plus simple. On les contacte, on leur dit « ce nouveau film est arrivé dans ton catalogue, est-ce qu'il est bien disponible? Est-ce qu'il existe bien une copie numérique digne de ce nom qu'on pourrait exploiter ?» Ils nous répondent oui ou non, et si c'est oui, bah on met le film en ligne, ça fait l'objet d'un avenant au contrat, on actualise l'annexe, c'est assez simple.
Ouais.
Si c'est chez un distributeur ou un ayant droit avec lequel on ne travaille pas encore, et bah il faut aller se présenter à ce distributeur, lui expliquer ce qu'on fait, qui on est, pourquoi on aimerait acquérir le film, dans quel but, etc. Voilà. Et il y a un pourcentage infime, mais ça existe quand même de films pour lesquels on n'arrive même pas à remonter la chaîne des droits parce qu'elle est peu claire, qu'elle a été un peu cassée à un moment donné, que du coup on ne sait pas où sont ces films. Voilà. Donc il y a des films comme ça que je continue à chercher.
Oui, c'est une tâche de fond, j'imagine.
Ah, tout à fait, c'est un peu de l'archéologie parfois. Et alors parfois, il y a des films où on sait très bien où ils sont, mais on n'obtient pas de réponse des distributeurs, par exemple. Ou alors, on arrive à avoir une réponse, mais il n'y a pas de copie numérique, c'est pas restauré, donc ça engendrerait des coûts techniques beaucoup trop importants pour nous. Donc voilà, ça, c'est pas
toujours... Oui, vous ne pouvez pas vous mettre à la place d'un studio ou d'un distributeur qui déciderait de chapeauter la restauration, par exemple, d'un film. C'est compliqué, j'imagine, pour
vous. Non, malheureusement, mais en tout cas, ce qui arrive, c'est que des fois, le fait qu'on montre un intérêt pour ce film... produit en fait des velléités de restaurer ou en tout cas au moins de numériser les films pour les rendre disponibles sur la Cinéthèque.
Alors justement,
c'est arrivé quelques fois.
Justement, j'y viens. Comment votre travail s'articule-t-il, si tant est qu'il le fasse, avec celui de distributeur de films de patrimoine? Je pense notamment à Carlotta qui est aujourd'hui vraiment sur le devant de la scène, ou bien de façon un peu plus confidentielle, Lost Films, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'interviewer pour ce podcast Marc Ollery qui est donc à la tête de Lost Films. Est-ce que vous avez un lien? J'imagine évidemment que oui. Et est-ce que là, il y a quelque chose que vous pouvez vous... lancer, comme vous avez dit, des velléités, par exemple, de restaurer? Est-ce que vous pouvez influer sur la volonté de restaurer ou de rechercher tel ou tel autre film auprès d'un distributeur?
Le travail avec les distributeurs, il se fait parce qu'on partage en fait une passion du cinéma et une volonté de transmission de ces films et de préservation de ces films de patrimoine qui nous semble important de garder. Et on représente en fait tous les maillons de la chaîne de distribution, si vous voulez. Enfin, nous, on n'est pas distributeur à proprement parler, on est éditeur d'une plateforme de streaming, une plateforme de vidéo à la demande, mais on travaille main dans la main avec les distributeurs, que ce soit des distributeurs salles, DVD, édition physique ou VOD. Et vous citiez Carlotta et Lost Film, c'est deux distributeurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on travaille très bien pour la diffusion de leur catalogue sur la Cinéthèque, quand ce sont des films qui sont cités par les réalisateurs associés. Donc là, j'ai envie de dire qu'avec eux, on prolonge plutôt le travail qu'ils initient en salle et en édition physique sur une plateforme. Et comme ça, ça permet en fait de donner d'augmenter les canaux de diffusion des films et de les rendre les plus visibles possibles. Voilà, c'est vraiment un travail allié, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas des choses qui vont contre l'une contre l'autre.
Non, bien sûr, mais il y a une sorte de flux classique, je dirais, qui va du distributeur vers celui qui va le proposer, donc oui. Que ce soit vers les salles, vers, comme vous le disiez tout à l'heure, les vendeurs de DVD ou vers vous. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si justement, par la particularité de la Cinéthèque, puisque vous avez des réalisateurs qui vont citer des films, parfois des films perdus, est-ce que ça vous arrivait de remonter ce flux, d'aller dans le sens inverse, ou en tout cas que vous sentiez que par votre citation de ce film, il y a quelque chose qui se crée, qui aille donc à l'inverse de ce flux et qui fasse naître chez ces distributeurs-là, peu importe le distributeur d'ailleurs, des velléités ou des envies ou des choses qui vont leur faire dire « Tiens, c'est vrai, ce film, il faudrait le redistribuer, le restaurer. »
C'est difficile à dire, je n'ai pas d'exemple précis que ce soit déjà arrivé. Je pense que ça peut arriver pour des cataloguistes, pour des grands studios, comme je pense à Studio Canal ou Gaumont ou Pathé. Si par exemple, il y a plusieurs films qui sont dans les tuyaux pour une restauration dans les mois à venir, s'il y a une demande de la Cinéthèque, ça peut aller en priorité. Je me souviens par exemple que Lola, une femme allemande de Fassbinder, qui était revenue chez Studio Canal, il n'y avait pas de sous-titres français. Et parce qu'on a fait la demande, le travail de fabrication des sous-titres français a été accéléré. On a pu avoir le film très rapidement. Donc voilà, il y a des choses comme ça quand c'est plutôt des grands studios, des grands catalogues, oui, ça peut arriver, ouais. Mais pas parce qu'on l'initie à proprement parler, mais parce que c'est dans les tuyaux, ouais. Et que du coup, ça permet de prioriser un film plutôt qu'un autre. Après, sur les distributeurs plus indépendants, je pense que de toute façon, ils ont une idée très claire et une éditorialisation très claire des films qu'ils ont envie de ressortir, de distribuer, de mettre en avant.
Oui, d'accord, ok. Le cinéma de patrimoine, c'est l'ADN de votre proposition, hein, clairement, vous l'avez dit en introduction. Quelle est votre relation personnelle à ce cinéma? Et dans la continuité de cette question, comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler pour la Cinéthèque? Donc là, je m'intéresse vraiment à votre parcours, en fait. Hein.
Ma relation avec le cinéma de patrimoine, elle va tout simplement main dans la main avec ma relation avec le cinéma. C'est-à-dire que c'est un peu mon activité préférée depuis que je suis petit. J'ai toujours vu des films, j'ai toujours vu beaucoup de films. Et le cinéma de patrimoine, il est venu... Moi, je regardais des films de mon temps, c'est-à-dire qu'ils sortaient en salle. Je suis très attaché à la salle. Je n'avais pas du tout de télé quand j'étais petit, par exemple. Je n'ai jamais eu de télé, tout simplement. Du coup, les films, je les voyais en salle au moment où ils sortaient. J'étais en province, donc voilà. Je ne voyais pas tellement de vieux films, du coup, quand j'étais petit, par exemple. Voilà. Après, par contre, quand je suis arrivé au lycée, au début de mes études, etc., je louais pas mal de DVD. Et ensuite, je suis arrivé à Paris. Et là, j'ai découvert les salles du Quartier Latin, où il y avait des films de patrimoine, etc. Et j'ai commencé à en voir beaucoup. Ça a commencé par Cassavetes, par exemple. Certains films de Ozu aussi, à l'époque, je me souviens bien. Et voilà, et comme ça, par effet de capillarité, on passe d'un réalisateur à un autre, d'un film d'un réalisateur à d'autres films du même réalisateur. Et voilà, ça s'est créé comme ça. Mon goût pour le cinéma de patrimoine a découlé de mon goût pour le cinéma tout court, parce que je ne fais pas de distinction entre les deux. Et je vois avec le même plaisir, indifféremment, un film sorti aujourd'hui qu'un film sorti il y a 60 ans. Et ça se complète. Et ce qui m'a passionné dans mon rapport personnel au cinéma, c'est quand je voyais comment le cinéma d'hier pouvait infuser le cinéma d'aujourd'hui, par exemple. Je me souviens très concrètement de la première fois que j'ai vu, par exemple, Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles de Rochefort, plutôt Les Parapluies de Cherbourg avec ce travelling dans la rue avec Catherine Deneuve. Et son amoureux, dont j'ai oublié le nom de l'acteur, malheureusement, qui est repris dans Les Chansons d'amour de Christophe Honoré, par exemple. Ouais. Enfin, ce travelling, on lui rend hommage dans Les Chansons d'amour. J'ai vu les chansons d'amour avant les Parapluies de Cherbourg, par exemple, ouais. Vu l'âge que j'ai. Et quand j'ai vu les Parapluies de Cherbourg, j'étais là, mais c'est dingue, en fait, effectivement, d'où ça vient et ce que je trouvais grandiose dans les chansons d'amour et que je continue à trouver magnifique dans les chansons d'amour, ça venait pas de nulle part, en fait. Ouais. Ça venait aussi de cette passion-là et de, voilà, d'un goût qu'avait eu Christophe Honoré pour ce cinéma-là. Et ça permettait, comme ça, de faire aussi de tisser des liens entre ce que moi j'aimais, entre ce que les réalisateurs que j'aime aimaient. Et puis de découvrir des films à cette aune-là aussi. Du coup, c'est ça qui me passionnait. C'était voir comment, voir ce qu'il reste de l'histoire du cinéma. Parce qu'en plus, la plupart des films de patrimoine, ils ont été estampillés. Et donc, il nous reste quasiment que les chefs-d'œuvre, j'ai envie de
oui,
dire.
C'est enfin, ça.
C'est
ouais.
assez simple d'aller se balader dans des vieux films et de dire lequel est bien. Ce travail-là a été fait pour nous aujourd'hui. Et voir les rapports qu'ils entretiennent, qu'ils soient secrets ou au vu de tous, avec les films d'aujourd'hui aussi.
Ouais. Et votre parcours, alors, pour arriver à la Cinéthèque, comment vous en êtes arrivé là?
Alors, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, en anglais et en allemand, des études d'affaires internationales à Vienne, en Autriche. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière comme journaliste, pigiste en culture et aussi journaliste permanent en politique internationale à TV5 Monde pendant 6-7 ans. Sur la fin de ma carrière de journaliste, si je puis dire, j'ai eu envie de me rapprocher du cinéma. Je pensais à pas mal de choses, comme la production, la distribution. C'était pas très clairement défini, mais en tout cas, c'est vers ça que je tendais et vers quoi je me dirigeais. Et j'ai vu un jour sur Profil Culture une annonce pour la Cinéthèque à laquelle j'ai décidé de répondre. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Tout simplement.
Tout simplement. Ça existe encore de pouvoir répondre à des...
Oui, c'est ça, hein, ça paraît fou. Ça paraît dingue. Voilà. Ce qui ressort beaucoup en passant les listes ou en listant un peu les interviews qui ont été données ici ou là par les cinéastes qui participent à la Cinéthèque, c'est au final qu'il ou elle cite beaucoup de films qui les ont influencés, évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est propre au cinéma, et on en parlait à l'instant, j'entends le cinéma en tant qu'art, cette tendance à la citation, ou est-ce que vous pensez qu'on retrouve ça dans les autres formes d'art?
Non, je pense que ça doit être le cas dans toutes les formes d'art. Enfin, il y a ouais. c'est là d'où on vient, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a aimé, ce qui nous a touché, ce qui nous a parlé. Je pense que ça infuse toujours ce qu'on fait. Parce que alors moi, je suis pas artiste, mais j'imagine que quand je discute avec certains, effectivement ou certaines, eux aussi, ils ont un. Je pense que ce qui est important, c'est qu'en tant qu'artiste, on a forcément un regard de spectateur ou de spectatrice également.
Mais c'est intéressant parce que dans les listes qui sont proposées, souvent, on sent bien que. Alors, c'est aussi dû au fait que vous proposez des films, comme vous l'avez dit, qui vont jusqu'à 2005. Donc, c'est compliqué d'aller insister pour dire je voudrais mettre Drunk de Thomas Vinterberg, par exemple, pour citer ce film, dans ma liste. Mais ce qui m'intéresse quand je vois les listes qui sont proposées par les réalisateurs, quand j'ai préparé cette interview, c'est souvent on a la sensation que le réalisateur que vous interrogez va aller chercher à citer vraiment naturellement, c'est ma sensation en tout cas, les films qui l'ont influencé. C'est-à-dire qu'il va réfléchir et replonger quelque part dans des films qui l'ont influencé. Et je trouve que c'est intéressant dans la mesure où, et vous l'avez dit tout à l'heure, le cinéma est effectivement un art où il y a beaucoup de citations. Je ne sais pas si c'est parce que dernièrement on est essoufflé ou si ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas envie de penser que c'était mieux avant. J'ai envie de penser que ça a toujours été comme ça. Mais je trouve ça intéressant de voir que vraiment naturellement, ou en tout cas c'est la sensation une fois de plus que j'ai en lisant ces listes, les réalisateurs vont aller se tourner vers des films de leur enfance qu'ils ont vus en salle au moment où c'est sorti ou qui les ont influencés. C'est plus rare, j'ai la sensation, de tomber sur des films qui sont plutôt plus modernes, plus proches de notre date, de notre actualité, de notre contemporanéité. Et ils vont facilement aller chercher ces films-là qui vont avoir été des grands chocs au moment où ils l'ont découvert en salle ou pas. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous demandez, vous, quand vous envoyez la demande ou quand... Cédric Lapiche ou Laurent Canté demandent à un réalisateur ou une réalisatrice de faire sa liste. Est-ce qu'il y a cette demande de « donne-moi les films qui t'ont influencé » ou est-ce que c'est vraiment juste on veut 50 films Je trouvais ça intéressant.
La règle initiale, c'est plutôt la règle du jeu, mais qui est un jeu ludique et amical, bien sûr. C'est de lister les 50 films préférés du XXe siècle jusqu'à 2005. Mmh. On ira bientôt jusqu'à 2010, d'ailleurs, d'ici la fin d'année. Et après, les réalisateurs ou les réalisatrices sont tout à fait libres de leur choix. Ça peut être du court-métrage, du long-métrage, de la fiction, de l'animation, de l'expérimental. Ça peut être tout ce qu'ils veulent. Et du coup, maintenant qu'on a un certain nombre de réalisateurs associés, ils ou elles peuvent faire des choix un peu plus... qui tranchent un peu plus. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, il avait le champ libre, il y avait toute l'histoire du cinéma à citer.
C'est ça,
c'était assez
ouais.
simple. Et aujourd'hui, ça dépend. Certains et certaines estiment aussi que c'est bien que certains films continuent à être inlassablement cités parce qu'ils sont tellement importants que c'est bien d'enfoncer le clou et d'expliquer que vraiment ça c'est un film à voir. Il y en a aussi qui décident de faire des choses un petit peu, de prendre des chemins de traverse un peu plus. Je pense à Radu Joud, par exemple, qui a décidé de faire une liste de courts-métrages uniquement. Claire Simon, dont on a publié la liste ce mois-ci, elle a décidé de, alors bien sûr, de faire la part belle au documentaire pour, dans un premier temps, mais il y a aussi des fictions. Mais elle disait aussi qu'elle avait choisi de combler les manques sur la cinéthèque, ce qui, elle, en regardant le catalogue de films cités, lui semblait manquer. Tiens, il n'y a pas ça, tiens, il n'y a pas ce film-là, ah, il manque Daguerréotype de Varda, il n'y a pas le premier enfant aveugle de Johan van der Keuken, c'est dommage. Voilà, et elle a composé sa liste comme ça.
D'accord.
Par exemple, il y a un réalisateur à qui on a demandé sa liste récemment, c'est Joachim Lafosse, où il avait donné une première liste initiale qui était très belle, où pour le coup, il y avait très peu de films qui n'avaient jamais été précités. Donc on lui a dit qu'on allait ouvrir au film 2005-2010, on lui a renvoyé le catalogue de films déjà cités, et là il a envoyé une liste beaucoup plus tournée vers le 21e siècle, justement, beaucoup des films de la fin des années 90, début des années 2000, ça donnera une liste avec beaucoup d'inédits, beaucoup de films plus proches de nous dans le temps, et c'est passionnant aussi de voir comment, voilà, quel est le rapport au cinéma ancien, au cinéma récent, et quant à leurs influences ou les films qui les ont inspirés, ça faudrait leur demander. C'est pas moi qui peux
parler
à leur place.
Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il y avait un prérequis. Vous avez...
Non, il y a aucun, il y a a priori aucun prérequis.
Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on dirait presque un organisme vivant, en fait, cette liste de films. Je parle de la liste en général, hein, puisque, comme vous le disiez, il y a des gens qui vont aller combler les lacunes, il y a des gens qui vont répéter. C'est assez passionnant de regarder ça de loin, d'essayer d'avoir une vue d'ensemble, en fait, là-dessus. Et j'ai une deuxième question plus technique. Vous dites que vous allez ouvrir la liste des films de 2005, vous avez repoussé la limite jusqu'à 2010. Vous avez un accord avec les distributeurs avec lesquels vous travaillez pour aller que jusqu'à 2005, jusqu'à présent? Ou alors c'était juste vous qui vous étiez fixé cette limite et là, maintenant, vous la repoussez à 2010?
Ah non, c'était nous qui nous étions fixé la limite. En fait, quand la Cinéthèque a été lancée, l'idée, c'était de faire la part belle au cinéma de patrimoine. Et donc, on prenait le 20e siècle. Voilà, c'était vraiment des débuts du cinéma jusqu'à l'année 2000. On s'est lancé en 2015. Voilà, ça faisait un delta de 15 ans entre les deux. On a décidé de garder ce delta de 15 ans un peu, enfin 12, 15,
oui, oui.
Selon les années qui avancent, parce qu'évidemment, le patrimoine est mouvant aussi, et on ne restera pas bloqué à 2000. Non, pour les distributeurs, si les films sont disponibles et qu'ils sont d'accord pour les commercialiser sur la plateforme, on peut prendre un film de 2022, il n'y a pas de problème.
D'accord, oui.
Mais non, on n'a pas du tout d'accord en ce sens-là avec les distributeurs, mais effectivement, quand on ouvre les films jusqu'à 2010, il va y avoir plus de nouveaux films cités, et donc plus de films à aller chercher du côté des distributeurs.
Ok, très bien, d'accord. Quand on a la chance de pouvoir assister à une séance de cinéma de films de patrimoine, donc dans un cinéma, dans la salle, vous en parliez tout à l'heure, on s'aperçoit que bien souvent, la salle est plus pleine que pour le cinéma contemporain ou actuel. En tout cas, c'est moi le constat que je fais. Et sur le podcast, j'aime beaucoup parler des constats que je fais. C'est ça qui m'intéresse et justement les confronter avec d'autres personnes. Comme s'il y avait un intérêt plutôt récent pour ces films qui font partie de l'histoire du 7e art, plus que pour son actualité. Alors, à quoi cet intérêt est-il dû selon vous?
Alors, je pense que ça dépend des villes, des cinémas, des publics. Je pense que ça tient beaucoup à l'accompagnement des films, à la rareté des films, à l'événementialisation qui en est faite. Voilà, je pense que ça dépend, je ne sais pas, je vois par exemple les séances MK2 ou GC, pour citer des grands groupes là par exemple, font des séances qu'ils appellent de films cultes par exemple. Ça, c'est assez souvent plein parce que c'est des films très connus, très grand public, que du coup on a vu les gens de 25, 30, 35 ans ont pu voir plus jeunes, mais pas nécessairement en salle. Donc là, tout d'un coup, il y a l'expérience salle qui reste quand même forte et importante, qui donne envie d'aller les voir. Il y a la question de la rareté, quand c'est des films qu'on voit jamais, qui n'avaient pas été restaurés jusqu'à présent, qu'on n'a jamais vu en salle, etc. Bah, c'est, encore une fois, l'expérience cinéma est importante. Et souvent, quand des films de patrimoine sont montrés en salle, ils ne sont jamais montrés comme ça tout seuls, en fait. Il y a vraiment un travail du distributeur et des exploitants autour de ces films pour les accompagner, faire intervenir un invité ou une invitée autour du film, souvent des experts qui viennent parler du film et donner très envie autour. Voilà, il y a des, le film est porté, éditorialisé et accompagné.
D'accord.
C'est ce qu'on essaye aussi d'ailleurs de faire dans le prolongement en ligne sur la Cinéthèque.
Ouais. Cet intérêt, est-ce que vous le ressentez donc sur la Cinéthèque, évidemment, j'imagine, puisque comme vous êtes spécialisé en cinéma de patrimoine, ou alors c'est inquiétant, par rapport à votre nombre de membres, est-ce que vous sentez qu'il y a effectivement un intérêt important pour le cinéma de patrimoine. Et il y a forcément eu un effet du confinement, en tout cas, je me l'imagine. Est-ce que cet effet se prolonge aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui?
Alors, il y a un grand intérêt pour le cinéma de patrimoine, de la même manière que, comme je le disais à titre personnel tout à l'heure, il y a un grand intérêt pour le cinéma. Enfin, j'ai envie de dire que voilà, c'est. Et là, j'en reviens à la curation et à l'éditorialisation qui est vraiment archi importante, puisque, comme ce sont des réalisateurs et des réalisatrices qui donnent leur liste, ce n'est pas des algorithmes. C'est vraiment tout est fait à la main, soigneusement, minutieusement. Donc, je pense que ça encourage aussi les gens à venir découvrir les films. D'autant plus qu'ils sont accompagnés par des bonus exclusifs qu'on tourne avec les réals et par des bonus archives, notamment dans le cadre d'un partenariat avec l'INA. Donc vraiment, les films sont, comme vous le disiez sur les séances en salle, ils ne sont pas du tout laissés à eux-mêmes. Ils sont accompagnés, ils sont contextualisés, voilà, ils sont curatés, j'ai envie de dire, à la main. Donc cet intérêt se prolonge grâce à ça. Évidemment, il y a eu un effet confinement vraiment dans la droite lignée de ce qu'ont observé toutes les plateformes pendant toute l'année 2020 et le tout début de l'année 2021, où les chiffres ont vraiment littéralement explosé. On a fait jusqu'à x6 ou x7 sur les 2-3 premiers mois de confinement en 2020.
Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la plateforme.
Hein. D'accord.
Via une interview de Benoît Hamon, vous voyez comme quoi.
C'est intéressant. Ah oui, Benoît Hamon est assez consommateur de la cinétech, c'est vrai. Il y a un tassement depuis un an à peu près, depuis le vrai déconfinement, rien de dramatique et on continue à intéresser les gens, ça se voit. Mais effectivement, il y a une petite stagnation et voilà, c'est vrai que le marché a été pris de court par ces confinements et où tout d'un coup le streaming et la vidéo à la demande devenaient l'activité majoritaire puisque les salles étaient fermées, puisqu'on ne pouvait plus sortir de chez soi. Et c'était un temps où on avait l'opportunité et l'occasion justement d'aller découvrir des choses dont on avait soit entendu parler auparavant, soit pas entendu parler, mais voilà, qu'on découvrait parce qu'on avait le temps. C'est un temps où nous, on a eu beaucoup de relais et de présence dans les médias, dans la presse, puisque là aussi, quand il s'agissait de parler de cinéma, bah, les salles étaient fermées, donc il fallait trouver d'autres thématiques, et le streaming en faisait partie, bien évidemment. Voilà, ça a permis le confinement, on en a tous beaucoup souffert, ça a vraiment nécessité des heures de travail très très longues, etc., pour toute l'équipe. Ça a permis de passer un cap, en tout cas, et ça c'est bon à prendre, et ça a permis de faire croître la notoriété, et de gagner effectivement en image de marque, et à ce que plus de monde nous connaisse.
Ouais.
Ça c'était intéressant pour nous. Depuis voilà, il faut le travail se poursuit autour de l'éditorialisation, des actions de communication et marketing, de nouveaux développements à venir et qu'on pensera dans le futur, etc. Pour rester à la fois aligné avec les usages du marché du streaming et continuer à garder notre spécificité éditoriale très forte.
Je vais terminer avec ça. C'est pas une question très joyeuse, mais il faut quand même que je. Enfin, je trouve qu'elle est intéressante. On parle pour la énième fois. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Nous, on a grandi avec de la crise du cinéma. Donc, il y avait la crise du cinéma avec les vidéoclubs, la crise du cinéma avec la télé avant nous. Maintenant, on a la crise du cinéma avec la plateforme de streaming. Comment vous positionnez là-dessus, si tant est que vous avez une position, et est-ce que vous pensez que cette crise sera entre guillemets la bonne? Alors évidemment, pour nous, la mauvaise. Est-ce que vous pensez vraiment que la salle est en train de mourir gentiment, ou alors est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il y a tout à fait une possibilité et une place pour la salle encore aujourd'hui dans le paysage du cinéma, de l'industrie du cinéma française et internationale?
Je réponds à titre personnel à cette question. Moi, je ne crois pas du tout à la mort de la salle. Je crois que oui, l'histoire, la marche du monde se fait par crises successives, et les crises, ça produit des réactions aussi et des actions. Et des pensées et des idées qui émergent, etc. Je pense qu'effectivement, là, il y a une crise le confinement n'a clairement pas aidé. Le public n'est pas tout à fait retourné dans les salles encore. C'est une certitude, mais je ne crois pas du tout à la mort de la salle, parce que la salle, elle existe sous plein de manières. Ça reste une expérience de cinéma qui est unique et immersive. Ce qu'il me semble, en revanche, c'est que la salle va apprendre à composer avec les plateformes, comme la salle avait appris à composer avec la télé, ou avec le DVD, et je pense que c'est illusoire de penser que, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, que la plateforme pourrait remplacer la salle complètement, ou que la salle serait la seule manière de voir des films, en fait. Finalement, je pense que tout ça s'additionne et fonctionne très bien main dans la main. Enfin, à titre personnel, je vais majoritairement voir des films en salle, parce que voilà, c'est le temps que je préfère consacrer à la salle plutôt qu'en ligne. Il n'empêche qu'il y a des films que j'ai pas l'opportunité de voir en salle. Et heureusement que je peux les voir en ligne. Enfin, j'en suis très heureux. Voilà, je pense que ça va ensemble. Et je pense que le challenge et les enjeux des mois et des années à venir, c'est surtout de voir comment travailler ensemble entre la salle et les plateformes. Parce que les plateformes sont là. Les plateformes ne sont pas toutes les mêmes non plus. Elles sont écrasées par une domination massive des géants américains, notamment. Mais voilà, toutes les plateformes ne se valent pas. Enfin, toutes les plateformes n'ont pas les mêmes enjeux et n'ont pas les mêmes stratégies. Toutes les plateformes ne sont pas purement commerciales comme le sont certaines grosses. Voilà, et pas mal de plateformes ont aussi des actions très vertueuses en fait de distribution et de visibilité des œuvres et du cinéma. Et je pense que voilà, je pense que tout ça doit fonctionner de concert, que la salle reste très importante et qu'il y ait d'autres canaux de diffusion des films et que tout ça puisse coexister.
Très bien. Ben, je vais vous remercier de m'avoir reçu. Merci beaucoup.
Ben, merci
et puis,
à vous.
Je vous souhaite une très bonne continuation au sein de la Cinéthèque et longue vie à la Cinéthèque, du coup.
Merci beaucoup.
Merci.
Très bonne continuation à vous.
Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Édouard Wasselin, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du Vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. Vous l'aurez noté, ce mois de janvier est inhabituel puisqu'on commence exceptionnellement par un épisode de Cinexplore. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode de Cinécure. C'est inhabituel, mais c'est exceptionnel. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !